Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale, une émission de résurrection puisque nous faisons aujourd'hui revivre Existence, l'émission transhistorienne sur le sens de la vie. Il fallait bien une occasion particulière pour amener Existence à la vie, c'est la sortie d'un ouvrage décapant, dans le top 10 des ventes de librairies chrétiennes, bien sûr, au mois de mars, le best-of d'un auteur prolixe âgé de plus de 1500 ans, qui m'intéresse particulièrement, puisque je lui aurai bientôt consacré au moins 4 années complètes de ma propre existence. Le best-of en question s'intitule « Trop occupé pour t'occuper de ta vie », le guide au quotidien d'un père de l'Église. La quatrième de couverture résume à merveille la vie et la personnalité de ce père, aussi je ne résiste pas à l'envie de vous en faire la lecture. Il n'est pas de ceux qui laissent indifférents. Ses ennemis le haïssaient, presque autant que ses partisans l'aimaient. Les premiers l'ont tué, les seconds en ont fait un saint pour les siècles. Jean, celui qu'on surnomme « Bouche d'or », en grec « Chrysostome », est l'auteur le plus lu et le plus recopié de toute la littérature grecque. Cet Antiochien, devenu archevêque de Constantinople en 398 avant de mourir en exil en 407, n'avait pourtant rien de politiquement correct. Son éloquence sans tabou, sa conviction que chacun, même au cœur de ce monde, est fait pour la sainteté, cette union de l'intelligence et du cœur, le rendent plus moderne que les modernes, et un éveilleur intime et dérangeant pour celles et ceux qui croient ou qui ne croient pas, mais qui ne veulent pas rester endormis. Alors pour nous garder éveillés aujourd'hui et pour nous parler de cet ouvrage, en nous faisant découvrir plus en détail la vie et la personnalité de Jean Chrysostome, nous accueillons Guillaume Badi, enseignant en théologie catholique et chercheur au CNRS à l'Institut des sources chrétiennes, une vénérable institution qui est bien lunaire, je ne parle pas de vous mais des sources chrétiennes. Bonjour Guillaume Badi.
Bonjour.
Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Merci de m'avoir invité.
Alors, avant de commencer, un petit avertissement prévisionnel. Non, ce ne sera pas « cette histoire s'inspire de faits réels » ou « toute coïncidence ou ressemblance avec des personnages réels est ni fortuite ni involontaire ». Ou bien encore « cette émission contient des scènes ou des propos qui peuvent heurter la sensibilité des auditeurs ». Non, rien de tout ça. Écoutez plutôt.
Hello, I'm Sister Vasa and I'm making my coffee right now here in Vienna. In Austria. We have a very exciting episode for you today because we're going to be talking about St. John Chrysostom, a very important figure in the Byzantine tradition. He's so important, in fact, that if you don't know anything about him, you should really drop everything. That's right, drop everything and find out about him.
Alors en gros, pour les anglophobes, voici ce que dit sœur Vassa, une sœur orthodoxe très moderne qui habite à Vienne et qui faisait son café à l'instant. Si on ne connaît rien à Chrysostome, on a raté sa vie. Donc vous voyez, chers auditeurs, l'importance de cette émission. Et après l'avoir écoutée, vous pourrez donc vivre en paix. Alors pour vous, justement, Guillaume Badi, Chrysostome avait tellement d'importance dans votre propre vie que vous avez décidé de la lui consacrer tout entière.
Alors je ne sais pas si j'ai cassé beaucoup de choses. J'ai commencé effectivement il y a un certain temps à m'intéresser à lui. En fait, c'est parce que j'aimais le grec et que voilà, je suis chrétien et je voulais lier les deux. Et voilà, j'ai trouvé dans Jean Chrysostome quelqu'un qui avait un grec très familier, très direct. Et voilà, qui se traduisait pas trop difficilement, normalement. Ensuite, je me suis dit, zut, quand même, c'est beaucoup plus difficile que ce que j'aurais cru. Et puis, je pense que j'ai été attaché à lui assez vite. Maintenant, ça fait plus de 20 ans.
Et vous l'avez rencontré à quel moment de vos études, alors? C'était,
j'ai fait des études de lettres classiques. Voilà, c'est ça. Et puis, au moment du DEA. Donc, Master 2.
D'accord. Et après, vous avez continué en thèse
Voilà, j'ai fait ma thèse sur un commentaire qui lui est attribué, un commentaire sur les proverbes. Donc, il y a beaucoup d'œuvres qui sont attribuées à Jean Chrysostome, qui ne sont pas forcément de lui. Alors, voilà, donc il y a des problèmes d'authenticité et d'exactitude du texte que vous connaissez bien aussi en tant qu'éditrice. Le texte de Chrysostome.
C'est ça. Et en plus donc de faire de l'édition scientifique, vous faites aussi de la vulgarisation, donc avec cet ouvrage « Trop occupé pour t'occuper de ta vie ». Donc un guide au quotidien des pères de l'Église. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez juste nous rappeler en deux mots ce que c'est qu'un père de l'Église?
Un père de l'Église, c'est un auteur chrétien des premiers siècles, souvent un évêque, ça peut être un moine, mais c'est quelqu'un qui a marqué l'Église. Il y a une fécondité spirituelle, c'est pour ça qu'on l'appelle père. Mmh. C'est aussi en rapport avec les conciles écuméniques, donc les grandes réunions qui ont décidé de l'avenir du christianisme à cette époque-là. Sainteté de vie, autorité des écrits, reconnaissance universelle sont parmi les caractéristiques des pères de l'Église.
Donc vous voyez que c'est du sérieux, chers auditeurs, aujourd'hui. Et à présent, nous allons entrer dans le vif du sujet.
Oyez, oyez, bonnes gens, je vais vous conter l'histoire de Petit Jean. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, de son bras il danse, de son bras il danse, de son bras, 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 et de sa main, 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 et de son doigt, 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 hey, ainsi danse Jean Petit.
Alors, vous l'aurez compris, chers auditeurs, nous allons commencer par le début de Chrysostome, par son enfance. Alors, son enfance, il l'a passée à Antioche au milieu du 4e siècle. Donc, on dit qu'il est né...
Entre 349 et 354, selon les auteurs.
349 et 350, voilà, donc à Antioche. Alors, est-ce que déjà, vous pouvez nous dire, nous présenter un peu Antioche à ce moment-là? Est-ce que, justement, Jean était un petit enfant qui se baladait dans les rues en dansant? Comment ça se passait à Antioche à l'époque?
Alors Antioche, aujourd'hui c'est Antakya, en Turquie. À l'époque c'était la Syrie romaine. Et je pense qu'on ne connaît pas l'importance aujourd'hui de cette ville qui était une véritable capitale, aussi bien au niveau culturel que politique et militaire. Et voilà, il y avait des centaines de milliers d'habitants. Et puis pour les chrétiens, ça avait une importance particulière. Jean Chrysostome le rappelle, de toutes les villes, la nôtre n'est-elle pas la plus chère au Christ, et pour vos vertus, et pour les vertus de vos ancêtres? Voilà, il s'adresse aux Antiochiens. Comme parmi les apôtres, Pierre fut le premier à confesser le Christ, ainsi parmi les villes, Antioche, la première, a vu ses habitants se couronner, pour ainsi dire, du titre admirable de chrétien, référence au chapitre 11 des Actes. Autrefois, Dieu promit de sauver une ville s'il s'y trouvait seulement 10 justes. Ici, il y a non pas 10, non pas 20 justes, non pas 40, mais beaucoup plus encore qui servent Dieu avec fidélité. Comment pourrions-nous donc ne pas espérer toutes sortes de biens et ne pas avoir confiance dans le salut commun? Voilà, en réalité, les chrétiens étaient une courte majorité à Antioche, donc fondation apostolique, mais il y avait une communauté juive très vivace, et puis c'était un centre du paganisme, notamment avec le rhéteur Libanios, qui a beaucoup lutté pour la survie du paganisme. Alors voilà, dans cette ambiance, le petit Chrysostome, alors je pense qu'il était un peu remuant, parce que dans ses textes, il dit souvent « Skirto, je bondis de joie ». Voilà, alors peut-être...
C'était bien petit Jean qui danse.
Peut-être.
Et alors, comment est-ce qu'il se situe, lui? De quelle famille est-ce qu'il vient?
Alors, il est d'une famille aisée. Son père était un haut magistrat qui est mort quand il était très jeune. Et donc, il a été élevé par sa mère, Antouza, qui est restée veuve très jeune, à partir de sa jeunesse. Et voilà, ils ont eu un lien assez fusionnel. Et même, Jean Chrysostome décrit très bien comment il a coupé le cordon avec elle. Je vais pas le citer là, mais à un moment, il voulait partir, aller dans la montagne, devenir un moine et ermite, ce qu'il a fait plus tard. Mais voilà, quand il a commencé à dire ça à sa mère, elle a dit « Non, reste avec moi, ne me fais pas veuve une deuxième fois ». Et Chrysostome dit vraiment, là, elle exagère. Franchement, les mères sont insupportables. Et voilà.
Et pourtant, il n'était pas fils unique.
Il avait une sœur, bon voilà, dont on ne sait rien en réalité, mais c'est comme ça souvent avec les femmes, malheureusement, dans les sources historiographiques.
Oui, et pourtant sa mère, elle, il en a beaucoup parlé aussi par la suite dans ses homélies, et c'était un peu comme la mère de Saint-Augustin finalement, c'était ces figures marquantes chrétiennes qui éduquaient leur fils leur transmettant la foi.
Effectivement, elle a suscité l'admiration, c'est peut-être Libanios qui dit ça. Le veuvage, dit Jean Chrysostome, est admirable et glorieux aux yeux des hommes, non seulement chez nous, croyants, mais aussi chez les incroyants eux-mêmes. Ainsi, personnellement, je me souviens qu'un jour, du temps encore de ma jeunesse, mon maître, c'était l'homme le plus superstitieux du monde. Alors voilà, les spécialistes ne sont pas d'accord pour savoir si c'est vraiment Libanios qui était le maître de Chrysostome, puisque Chrysostome a fait des études poussées, une autre source dit que Libanios voulait que Chrysostome lui succède. Il était promis
tiraillé
un grand
aussi
avenir.
Entre deux, entre le monde du paganisme et puis le monde du christianisme.
Alors là, il parle de ce maître. Celui-ci exprima en public son admiration pour ma mère. Il s'informait auprès de ses voisins, comme il aimait à le faire, de mes origines, et quelqu'un lui dit que j'étais le fils d'une veuve. veuve. Il s'enquit alors auprès de moi de l'âge de ma mère et de la durée de son veuvage. Je lui répondis qu'elle était âgée de 40 ans et qu'il y en avait déjà 20 qu'elle avait perdu mon père. Stupéfait, il s'écria en regardant l'assistance « Ah vraiment ? Quelle femme on trouve chez les chrétiens ?»
Oui, alors je précise tout de suite pour nos auditeurs, c'est un extrait donc, de ce livre dont nous parlons aujourd'hui, hein, « Trop occupé pour t'occuper de ta vie, le guide au quotidien d'un père de l'Église ». Et donc vous sentez la traduction de Guillaume Badi, hein, qu'il a retravaillée pour la rendre plus vivace et plus moderne, hein, plus contemporaine, plus accessible aussi. Le livre est constitué de ce genre de petits extraits, donc une lecture aussi que vous pouvez faire au fur et à mesure quand vous le souhaitez.
Oui, oui, une station de métro suffit à lire un texte.
Alors,
ils sont pas tous retraduits par moi. Là, en l'occurrence, c'est une citation des sources chrétiennes, hein, donc la collection que produit l'Institut auquel j'appartiens.
Alors, nous venons de parler donc, du rôle de la mère de Chrysostome aussi dans son éducation. Alors, est-ce qu'on peut citer peut-être d'autres personnalités marquantes qu'il a rencontrées, qui l'ont formée, donc après Libanios donc le recteur païen.
Ses professeurs ont été sûrement surpris de voir qu'il ne poursuivait pas dans la carrière de recteur ou d'orateur. Et donc, il choisit le Christ et il a comme professeur un certain Diodore qui allait être évêque de Tarse et qui voilà, l'initie aux Écritures, à la foi chrétienne en général. Et puis, en réalité, son vrai père spirituel, c'est l'évêque Mélès. L'évêque Mélès est l'évêque de la petite communauté orthodoxe de la ville d'Antioche, qui est divisée.
Les chrétiens alors orthodoxe, il faut bien préciser, hein, au sens ancien du mot.
Au sens ancien, c'est-à-dire fidèle à la foi du concile de Nicée qui a eu lieu en 325 et qui a affirmé la divinité de Jésus. Et il y avait une importante communauté arienne, c'est-à-dire qui ne reconnaissait pas ce concile ni la divinité du Fils. Et Mélès, qui avait d'abord été élu par les Ariens comme évêque de leur communauté, a été désavoué et voilà, il est devenu le chef de la communauté orthodoxe. Mélès a été très important pour Jean Chrysostome, puisqu'il le fait lecteur pour commencer en 371. Puis c'est lui qui le fera diacre en 381.
Et lecteur, qu'est-ce que ça signifie alors, et diacre? Ça veut dire que d'abord, il faisait seulement les lectures de la Bible au moment des célébrations, et après, il a eu droit à plus de
charges. Alors oui, dans l'Antiquité, le grade de lecteur, c'est un grade ecclésiastique. Hein, et voilà, ça consiste à lire, ce qui est déjà très important, évidemment, pour la liturgie. Ensuite, diacre, c'est des fonctions très matérielles. Et Jean Chrysostome, je pense, s'en est souvenu toute sa vie, puisqu'il a été toujours préoccupé des pauvres, préoccupé des veuves, préoccupé de la gestion de l'Église et puis de ceux qui en dépendaient. Il a connu un peu toutes les étapes de la vie chrétienne. Il s'est fait baptiser, on aurait peut-être pu commencer par ça, lorsqu'il était déjà un jeune adulte, comme ça se faisait à l'époque.
Oui, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer pourquoi aussi l'image traditionnelle, c'est de baptiser les petits-enfants. Alors pourquoi est-ce qu'à l'époque, on baptisait plutôt quand on était adulte?
Alors, c'était une habitude née en grande partie du fait que le christianisme était en pleine expansion et que les gens étaient censés se convertir, pas forcément naître d'une famille chrétienne. Et du coup, même les familles chrétiennes avaient gardé cette habitude de laisser à l'enfant et à l'adolescent le temps de trouver le bon moment pour se baptiser. Et alors, la raison qui n'est pas la moindre, c'est qu'on pensait qu'on n'avait qu'une seule chance pour se faire pardonner les péchés, c'était le baptême. Et du coup, ça explique le fait que Constantin ait attendu d'être sur son lit de mort pour demander lui-même le baptême. Donc, c'est un exemple célèbre. Il se trouve que Jean Chrysostome, plus tard, on lui reprochera d'avoir autorisé la pénitence, donc le repentir et le pardon des péchés, pour ses ouailles, 70 fois cette fois, c'est-à-dire autant de fois que nécessaire.
Et c'est biblique aussi. Hein.
Voilà, c'est l'application de cette parole évangélique à la pénitence ecclésiastique était inédite à l'époque. Aujourd'hui, elle est courante, mais à l'époque, ça faisait scandale. Ça veut dire, voilà, finalement, on brade la miséricorde de Dieu.
Alors, son engagement dans l'Église était clair, mais il a cherché quel type d'engagement il pouvait y avoir. Donc, il a hésité notamment entre la vie monastique et la prêtrise. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les aléas de cette période de sa vie, puisqu'il a été tiraillé un peu entre les deux? Donc, vous avez déjà parlé de sa mère qui lui avait dit non, reste avec moi, ne te fais pas moine dans les montagnes.
Oui, il y a le... Le livre de chevet de tous les prêtres orthodoxes, encore aujourd'hui, c'est le dialogue sur le sacerdoce, où il raconte bien comment il avait un ami qui s'appelait Basile, et qui, comme lui, rêvait non pas de la prêtrise, mais de la vie de moine. Et Jean Chrysostome, c'était son rêve également. Et en fait, il raconte une sorte de trahison de sa part, et bon, le livre n'est pas toujours de très très bonne foi, il l'a écrit après. Il raconte qu'il a laissé Basile se faire emporter pour devenir prêtre, pendant que lui, il s'est caché. Donc il ne voulait pas être prêtre, il se sentait vraiment pas digne. Et donc, il a vraiment connu les affres vraiment de la vocation telle que tous les jeunes hommes peuvent les connaître encore aujourd'hui. Je ne sais pas si le dialogue sur le sacerdoce parle de façon très directe aux séminaristes, mais voilà, c'est un exemple assez très 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 précis psychologiquement sur l'état de Jean Chrysostome. Alors voilà, il y a sa mère qui l'a empêché, puis finalement il est quand même parti dans la montagne. Alors d'abord,
une fois qu'elle était décédée, il me semble, hein, il a quand même respecté jusqu'au bout
c'est ça.
L'ordre que lui avait donné.
Si on en croit Palladios, donc qui est une des sources principales sur Jean Chrysostome, mais une source partielle puisque c'est un partisan de Chrysostome. Donc il aurait passé 4 ans comme moine dans la montagne. Le mont Silpios est juste à côté d'Antioche. Une vie cénobitique d'abord, puis 2 ans comme ermite. Et il aurait appris toutes les écritures par cœur. Et il aurait à tel point abîmé sa santé à cause d'une ascèse excessive qu'il aurait eu besoin de revenir en ville. Donc sa période dans la montagne, c'est sans doute entre 372 et 378. Et voilà, ce retour est intéressant parce que il y a 3 raisons différentes. Il y a d'abord son état de santé. Il y a aussi le fait que l'évêque Mélès, qui a connu plusieurs exils, était rentré en Grâce en 378, et donc la communauté orthodoxe pouvait à nouveau résider à Antioche. Et puis la 3e raison est peut-être intéressante parce qu'elle correspond à ce qu'il écrit aussi. Faire le salut de soi-même tout seul dans son coin. Est-ce que c'est vraiment aussi bien que d'être avec les autres pour essayer de les gagner à la vie chrétienne ?
Donc là, il y avait vraiment une raison de fond presque théologique qui l'a poussé à revenir.
Voilà, alors je pense qu'il est même assez dur vis-à-vis des moines, puisqu'il dit que ça ne sert à rien de prier dans son coin. Alors aujourd'hui, tous les moines et moniales diraient voilà, la prière, on prie pour tout le monde. Voilà. Jean Chrysostome, s'adressant à des laïcs dans le monde, a besoin de leur dire que ça ne sert à rien d'être moine et qu'ils ont plus intérêt à chercher à gagner leur frère. Bon, c'est en tout cas relativement rare, en fait, dans la littérature patristique, d'avoir cette préoccupation vraiment pastorale pour la vie dans le monde, les gens qui sont effectivement occupés, qui ont des affaires, qui ont une femme, des enfants, des ennuis, et qui trouvent pas le temps ou du moins se cherchent des prétextes pour ne pas vivre vraiment la vie chrétienne.
Et donc, vous nous avez raconté, là, dans les grandes lignes, la naissance de la vocation de Jean. Alors, il a été, après avoir été ordonné donc lecteur et diacre, il a été ordonné prêtre, donc après son retour.
En 386, il était ordonné prêtre par le nouvel évêque qui s'appelle Flavien, qui lui a confié la tâche de prêcher, puisque normalement c'est l'évêque qui prêche. Et là, tout de suite, Jean Chrysostome a beaucoup de succès. Il a une façon de prêcher qui était assez inusité, semble-t-il.
Oui. Justement, on va tout de suite entendre l'évêque Mélès, ou bien peut-être l'évêque Flavien, donc parler de Chrysostome et l'encourager peut-être avant son premier sermon.
Bonjour.
Ah, Jean, on n'attendait plus que toi. Alors, avec le team, on a étudié bien les circuits. Pour la stratégie, c'est mieux que tu privilégies les appuis aérodynamiques que la performance, non?
Bon, mais oui, la stratégie, moi, c'est facile, hein? À fond, à fond, à fond.
Si, c'est bien, c'est fougueux. Mais c'est mieux si tu arrives à la fin de la course, hein? Comment tu sens les circuits?
À fond, à fond, à fond.
C'est-à-dire, c'est un circuit que c'est difficile pour doubler, que tu dois réfléchir. Ce que je veux dire, c'est si tu es derrière un pilote qui va moins vite que toi...
Je le double à fond.
Si, Ouais. Mais peut-être il n'y a pas la place.
S'il n'y a pas la place, je coupe par le gravier.
Si, mais c'est pas une stratégie, ça.
Ah, si, c'est la mienne.
Elle a rebessigné à l'instant que je me suis trompée de jingle. Bon, non, ce n'était en tout cas pas, vous l'aurez reconnu, Jean aux courses de chars. On vous expliquera d'ailleurs dans quelques minutes pourquoi c'était impossible. Ni Jean sur les starting blocks avant sa première homélie. Quoique, vous avez parlé donc de sa popularité en tant que prédicateur, qui était donc toujours à fond dans ses homélies.
Alors oui, là, c'est pas Jean Alesi, mais le fait est qu'il avait une particularité, c'est qu'il improvisait. Ça frappait beaucoup son auditoire. Il était très proche d'eux, il se mettait vraiment proche d'eux, il devait forcément parler très très fort, hein, parce qu'il n'y avait pas de micro, et il avait un style très familier, voilà, par rapport à quelqu'un comme Démosthènes, qui avait une certaine force d'éloquence, ça c'est certain, mais qui avait plus d'ampleur. Jean Chrysostome n'hésite pas à avoir un langage familier, pas grossier, mais voilà, des tournures très direct. Il fait intervenir ses interlocuteurs comme s'il était dans un dialogue. Et voilà, il a eu son originalité et son succès en tant que prédicateur, ça c'est certain.
Oui, il a même eu tellement de succès qu'il était parfois applaudi pendant ses sermons.
Il devait s'arrêter et empêcher les gens de l'interrompre. Mais il faut voir qu'à l'époque, la parole des orateurs, c'était un peu la télé de l'époque. C'était le modèle de la culture, le principal médium. C'est une culture de l'éloquence, c'est pas une culture de l'image, peut-être un petit peu, mais d'abord une culture de l'éloquence, de la parole en direct. Et même les païens, les juifs venaient dans l'église pour l'écouter. Et Jean Chrysostome d'ailleurs se plaint que ses propres ouailles viennent pour ses sermons et s'en aillent juste après. Il dit, voilà, ça sert à rien, finalement, mon sermon sert strictement à rien, vous avez rien compris à ce que j'ai dit, vous avez pas fait attention, vous venez juste pour m'entendre et pas du tout pour en tirer profit.
Oui, parce qu'il était l'héritier aussi donc, de cette école de rhétorique où il était, et plus largement de la rhétorique grecque classique, hein, qu'il emploie beaucoup aussi dans ses homélies. On parlait donc des courses, alors non pas des courses de voitures, mais des courses de chars aussi. Donc on va maintenant quitter un peu la vie de Chrysostome pour s'arrêter sur quelques grandes thématiques qu'il a abordées dans ses homélies, notamment à l'époque où il était prêtre d'Antioche. Et donc ce problème des courses de chars et aussi du théâtre préoccupait vraiment Jean Chrysostome. Et il en a fait beaucoup mention dans ses homélies. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ?
Alors oui, alors déjà le théâtre, c'était pas du Beckett, hein, c'était pas du Racine non plus. C'était souvent des spectacles obscènes avec de la danse et les courses de chars également étaient l'occasion de beaucoup de débordements. La ville elle-même avait l'habitude de voir des processions païennes avec des phallus dressés. Il y avait des processions juives qui avaient beaucoup de succès, mais ça c'est encore un autre sujet.
Voilà.
voilà, il faut voir que l'opposition de Chrysostome était en réalité contre une forme de culture qui allait contre ce qui pour lui était la décence et faisait concurrence en fait directement au spectacle entre guillemets qu'était la liturgie dans l'église.
Oui, qui vous l'avez dit attirait aussi les foules finalement
voilà,
comme
en fait,
un spectacle.
Il y avait un concours, une sorte de concours de culturel entre les communautés. Et bon, là, ça se passe à Constantinople, mais il y avait des hérétiques qui avaient beaucoup de succès à Constantinople. Et il a réussi à les faire interdire. Et c'est ses propres processions qui ont remplacé celles de Sicinios.
Alors, ce que vous dites là, ça parle aussi bien du rapport donc, de Jean Chrysostome avec les autres communautés, notamment avec les païens et avec les juifs. Alors, ce qu'on n'aime pas trop dire, c'est que Jean Chrysostome a donc été assez virulent envers les païens, mais aussi envers les juifs. Qu'est-ce qu'on peut en dire sans langue de bois, j'allais dire ?
Alors, voilà, déjà, la position de Jean Chrysostome vis-à-vis des Juifs est assez contrastée. C'est-à-dire qu'il a les paroles les plus dures qui soient et qui ont sans doute nourri l'antisémitisme moderne. On ne peut pas, sans anachronisme, parler d'antisémitisme de Jean Chrysostome. Il y a un anti-judaïsme très net, hein, dont il ne s'agit pas de l'excuser. Mais voilà, il se trouve qu'il y avait une concurrence réelle des Juifs à Antioche vis-à-vis des chrétiens. Donc Jean Chrysostome a essayé de séparer ses ouailles qui étaient tentées d'aller à la synagogue et qui y allaient de fait. Il y a cette position anti-juive très nette chez lui. Et puis le fait que il avait beaucoup d'amis juifs à Constantinople. Enfin voilà, il a eu des mots durs avec tout le monde en réalité, hein, pas seulement avec les juifs, et bien sûr aussi avec les païens. Et il a eu une œuvre dans ses écrits. Voilà, il y a beaucoup d'écrits contre les juifs, des écrits contre les païens, et il a lui-même, étant nourri de culture païenne, était assez disposé à répondre et à savoir démasquer les erreurs du paganisme. Alors par exemple, il y a une figure qui était familière aux païens, c'est celle du philosophe cynique Diogène, donc qui était un provocateur né, donc comme cynique, mais qui faisait déjà partie de la culture commune de tous les Grecs. Et voilà comment Jean Chrysostome, par exemple, s'en prend à cette figure. « Diogène, le philosophe, écrit-il, fit preuve d'un grand franc-parler à l'égard d'un roi. Voyons donc ce grand franc-parler si par hasard il ne serait pas plus vain encore que le fait peu banal qu'il vivait dans un tonneau. »
Et donc ça parle à ses auditeurs. Là, qui
voilà, l'image
bien.
De Diogène, ouais, dans son tonneau, encore aujourd'hui, je pense, ouais, est assez familière. « Quel fut donc ce grand franc-parler ? Un jour qu'Alexandre le Grand, en route contre le roi de Perse, s'était arrêté près de lui en l'invitant à déclarer s'il désirait quelque chose, « Rien, répondit-il, si ce n'est que le prince ne lui fasse pas d'ombre !» Car le philosophe était alors en train de se chauffer au soleil. « Ne rentrerez-vous pas sous terre ?» commande Jean Chrysostome. « Ne vous cacherez-vous pas de honte ? N'irez-vous pas vous terrer quelque part pour vous enorgueillir de ce dont il faudrait rougir ? Combien il aurait mieux valu, revêtu d'un manteau épais, celui des philosophes, être au travail et demander alors au prince quelque chose d'utile plutôt qu'être assis en guenille à se chauffer à l'exemple des petits-enfants à la mamelle que les nourrices, après les avoir baignés et frottés d'huile, exposent ainsi pour la même raison qu'invoquait alors le philosophe, assis quand il demandait cette faveur digne d'une pauvre vieille femme.
Mais le franc-parler, n'est-ce pas, est admirable.
Oui, c'est un interlocuteur que fait parler Jean Chrysostome, et il répond « Mais il n'est rien de plus extravagant que le sien. L'homme de bien doit tout faire en vue de l'intérêt commun et réformer la vie des autres. Or, en réclamant qu'on ne lui fasse pas d'ombre, quelle cité, quelle maison, quel homme, quelle femme a-t-il sauvé ? Dis-moi les fruits de son franc-parler. » Alors voilà, c'est un petit peu facile de sa part de s'en prendre à Diogène, qui vivait pour la provocation, et visiblement, sa provocation a marché aussi avec Jean Chrysostome.
Alors comme ça, Jean Chrysostome s'empare de quelques figures, notamment du paganisme, pour les réutiliser dans ses homélies. Mais il s'inspire aussi, bien sûr, de grandes figures du christianisme, à commencer par la figure de Paul, de Saint Paul, qui l'a énormément inspiré et à laquelle il s'identifiait probablement aussi avec sa propre trajectoire de vie, hein, dont on va encore parler dans la suite de l'émission. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rapport donc entre Chrysostome et Paul et sur la manière dont il utilise cette figure de Paul dans ses prédications?
Oui, c'est Paul est effectivement le grand modèle de Jean Chrysostome pour sa spiritualité. Et le fait est que ce n'est pas tellement l'imitation de Jésus-Christ ou encore moins l'imitation de Marie qu'il lui propose dans son œuvre, c'est vraiment l'imitation de Saint Paul. Il a commenté l'intégralité des écrits attribué à Paul,
oui, ce qui est énorme,
ce qui est énorme et ce qui a servi de modèle aussi de commentaire pour les lettres de Paul pour les siècles. Et il a, par exemple, il commente ainsi le passage où saint Paul écrit « Si l'un de vous semble être sage, qu'il devienne fou ». Et Jean Chrysostome le rapproche, par exemple, de ce que dit Jésus dans saint Matthieu « Père, je te bénis parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents ». En disant sage, il ne parle pas de la véritable et louable sagesse, mais de celle qu'ils croyaient posséder par leur pédanterie. Donc là, il se détache très nettement de la culture païenne. C'est pourquoi il n'a pas dit « tu l'as révélé aux fous », mais aux petits, aux gens sans feinte, aux simples, veut-il dire. Il montre que non seulement il n'était pas injuste que cela soit privé de ses révélations, mais que c'était tout à fait normal. Et en tout, il nous enseigne à nous débarrasser de la folie des grandeurs et à rechercher la simplicité. Et là se fait le rapprochement avec Paul. Paul le dit avec davantage de force. On voit bien le lien avec Jésus. Voilà, il y a l'évangile, oui, qui est irremplaçable. Et il y a la force supplémentaire apportée par Paul. Paul le dit avec davantage de force quand il écrit « Si l'un de vous semble être sage en ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » C'est ainsi, commente Jean Chrysostome, que se révèle la grâce de Dieu.
Oui, on voit aussi un autre trait marquant de la prédication de Chrysostome. C'est cet art du paradoxe, hein, qu'il hérite finalement de Paul lui-même et qu'il manie dans ses homélies assez largement.
Alors, Oui, effectivement, les paradoxes sont nombreux chez Jean Chrysostome. Donc ce moine qui parle à des laïcs. Il y a aussi cet homme féru de culture païenne qui critique la culture païenne. Et il y a aussi ce saint qui loue la sainteté, la virginité de Marie, mais qui, comme d'autres avant lui, s'en prend à, disons, au sentiment de mère un peu trop possessive qu'elle manifeste quand elle lui demande à lui parler alors qu'il est déjà en train de parler en public. Paradoxe aussi de quelqu'un qui est capable de dire que c'est pas la peine d'aller à la messe. Alors, dit comme ça, c'est évidemment faux, hein, puisque c'est alors, il faut le dire, hein, c'est celui qui a donné son nom à la liturgie la plus connue en Orient, la divine liturgie de Jean Chrysostome. Et donc, c'est un liturge de génie, hein, qui a eu un sens extraordinaire dans la liturgie. Et il a eu un rôle majeur à Constantinople et pour la liturgie byzantine en général. Il dit par exemple: croyez-vous que la vie de foi consiste à aller toujours à la messe? Ce n'est rien si nous n'en recueillons pas de fruits. Si nous n'en rapportons rien, il vaut mieux rester chez nous.
Alors voilà, donc, ça mérite d'être clair, oui. Et assez radical.
Voilà, quels fruits recueillez-vous des messes? Même si vous y trouvez quelque utilité, cela fait longtemps que vous devriez tous vivre à la vie de la sagesse. Tant de prophètes vous parlent deux fois par semaine, tant d'apôtres, tant d'évangélistes, tous vous exposent les vérités du salut et vous présentent avec beaucoup de précision ce qui pourrait régler votre comportement. Mais vous n'en profitez pas.
Oui, ça rejoint aussi exactement la quatrième de couverture, hein, quand vous disiez que Chrysostome était aussi un écrivain pour ceux qui ne veulent pas rester endormis. Hein, c'était aussi une manière de réveiller son auditoire et de lui mettre le nez sur l'essentiel, donc sur la vie de foi aussi, avec un aspect très, très pragmatique. On l'a vu aussi avant dans l'extrait avec Diogène. Et du coup, donc, dans cet aspect pragmatique, qui vivait vraiment, comme vous l'avez dit aussi, par rapport à son expérience de diacre et qui se ressent aussi après dans ses prédications. Il mettait notamment l'accent sur la place des pauvres à Antioche et sur le fait que donc, la foi ne se vit pas justement que dans les églises, mais aussi en actes. Il insiste beaucoup là-dessus, hein, sur la foi qui se manifeste par les actes. Et notamment donc, en donnant, en faisant l'aumône, hein, donnant aux pauvres. Et est-ce que vous pouvez un peu développer cette thématique-là?
Voilà, alors en grec, on trouve ça chez Jean Chrysostome mais chez beaucoup d'autres auteurs chrétiens, il y a ce jeu de mots sur le mot « éléos » qui désigne la miséricorde de Dieu, et le fait de soi-même faire miséricorde, c'est-à-dire donner quelque chose. Et le même mot, « éléon », désigne l'huile ou l'olivier, voilà, le produit de l'olivier. Et pour Jean Chrysostome, il y a un lien direct entre la miséricorde de Dieu et l'aumône qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et il n'y a pas de liturgie possible s'il n'y a pas de vie chrétienne plus largement dans le monde. Et l'Église n'a de sens que si elle cherche le salut du monde. Voilà. La liturgie, tout seul dans son coin, ça ne sert à rien, à mon avis, pour Jean Chrysostome, mais ça, c'est vraiment très net. Alors, je donnerai un exemple. Lorsqu'il écrit « N'allons pas croire qu'il suffit pour notre salut, après avoir dépouillé veuves et orphelins, d'offrir à l'autel un calice d'or incrusté de pierreries. Si tu veux honorer le sacrifice, offre l'âme pour laquelle il s'est sacrifié, fais-la d'or, elle, si elle reste pire que le plomb ou l'argile, l'ustensile en or. À quoi bon? Veux-tu honorer le corps du Christ? Ne le méprise pas quand il est nu. Après l'avoir honoré ici avec des vêtements de soie, ne le méprise pas dehors alors qu'il souffre du froid et de la nudité. Celui qui a dit « Ceci est mon corps » et à sa parole a garanti le fait, c'est lui qui a dit « Vous m'avez vu avoir faim et vous ne m'avez pas nourri. Et ce que vous n'avez pas fait pour l'un de ces petits, pour moi non plus, vous ne l'avez pas fait. Tout en décorant la maison de Dieu, ne méprise pas donc ton frère dans la détresse, car il est lui-même un temple plus précieux qu'elle. »
Un texte qui a aussi beaucoup de résonance évangélique, là, pour le coup, et moins apollinienne, mais qui, donc avec tout ce que vous avez dit avant, aussi des échos dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, pour continuer maintenant avec la vie de Chrysostome, pour revenir aux différentes péripéties qui ont marqué sa vie, donc les premiers temps, comme prédicateur à Antioche, se sont très bien passés, avec un grand succès, donc c'est avec ces thématiques aussi qu'il abordait, donc il a pu faire prospérer la communauté chrétienne à Antioche, et Donc, comme dans toute vie, avec ses hauts et ses bas, il y a eu aussi des coups durs, dont un qui est un premier, qui est arrivé en l'année 387. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé?
À la fin du mois de février 387, à Antioche, donc, il y a eu une émeute suite à l'annonce de l'augmentation des impôts. Et les statuts impériaux de la famille impériale ont été renversés. Donc, ce qui est un crime de lèse-majesté. Et l'empereur Théodose a pris la mouche et a menacé de massacrer toute la ville. Et de fait, c'est ce qu'il va faire quelques années plus tard dans une autre ville. Grand émoi, évidemment, à Antioche, et pas seulement chez les chrétiens. L'évêque Flavien est dépêché à Constantinople pour tenter d'obtenir la clémence de l'empereur. Et Jean Chrysostome, de son côté, reste à Antioche pour ranimer le moral des troupes. Et donc, on a une série qui s'appelle « Les homélies au peuple d'Antioche » ou « Les homélies sur les statues » qui est un modèle du genre. Il ranime le moral de la population. Alors, il fait appel aux moines qu'il connaissait dans la montagne et qui viennent braver les bourreaux. Il y a eu quelques exécutions de magistrats au début. Voilà, quelques personnes qui, effectivement,
oui, pour l'exemple,
ont été condamnées. Mais le pire a été évité et Jean Chrysostome a certainement joué un rôle dans la pacification de la ville d'Antioche à ce moment-là.
Donc là, il a eu même un rôle politique qui l'a encore un peu plus propulsé sur le devant de la scène et qui l'a fait connaître aussi plus largement. Et donc c'est peut-être aussi un peu grâce à ça que donc, les échos de son ministère sont parvenus jusqu'à la capitale du monde oriental à ce moment-là, à Constantinople.
Alors c'est assez curieux parce
qu'à
l'automne 397, on lui donne rendez-vous de la part d'Astérios, qui est comte d'Orient et gouverneur de la ville. Et voilà, il ne connaît pas l'objet de ce rendez-vous et il se rend à la porte de la ville sans savoir qu'en réalité, il ne reverrait plus Antioche, puisque le comte le fait emmener directement à Constantinople. Pourquoi ? Eh bien, pour devenir le prochain archevêque, on ne dit pas encore patriarche à ce moment-là, archevêque de la capitale impériale.
Donc Jean Chrysostome, dans une vie pleine de rebondissements, a été enlevé de force donc, pour devenir le plus grand représentant donc, de l'Église dans le monde oriental. Et donc à Constantinople, Jean va arriver au beau milieu de la cour impériale.
Tout notre argent, tandis qu'il nous friponne, on voit au fond de ce larron vaciller sa couronne. Mais tant qu'il y aura de braves gars dans la bande à Robin, ils reprendront à ce fripon de quoi manger du pain. Sans qu'il s'en avise, l'adroit Robin lui subtilise sa chemise.
Alors c'était un autre petit Jean qui chantait donc sur le roi Jean, qui a usurpé le trône de Richard Cœur de Lion. Vous l'aurez reconnu, un extrait du dessin animé Robin des Bois. Lui aussi, donc Jean va arriver au beau milieu de la cour impériale avec ses intrigues et alors non pas un roi, mais un empereur, hein, Arcadius, qui avait aussi un peu des côtés despotes. Alors est-ce qu'il prenait aussi l'argent de ses ouailles et est-ce que Jean a donc été parangon, le défenseur qui a essayé de redistribuer les richesses? Comment ça s'est passé à Constantinople avec Arcadius?
Alors Jean Chrysostome, l'ascète, l'ermite dans le cœur, arrive à Constantinople et à la cour des grands, vraiment comme un chien dans un jeu de quilles. Mais il est apprécié, les premiers contacts sont très bons parce qu'on l'aime pour sa prédication. Et le fait est que ses relations avec l'impératrice Eudoxie, par exemple, au départ, sont très très bonnes. Il baptise les enfants impériaux, semble-t-il. Et voilà, les relations sont même assez bonnes pour que Arcadius accepte que le dimanche, les courses de chevaux n'aient pas lieu. Alors que les courses de chevaux sont dédiées à l'empereur. Oui. Et donc, Jean Chrysostome fait cette demande, Arcadius cède, et même plus tard, les courses de chevaux seront interdites. C'est un début assez prometteur, mais ça se passe quand même pas très très bien. Jean Chrysostome fait vendre la plupart des biens luxueux de l'Église. À l'archevêché, il vit très retiré, il ne reçoit personne. Ses collègues ecclésiastiques, qui ont l'habitude de demeurer dans la ville au lieu d'être dans leur évêché, ne supportent pas cette espèce de franciscain avant l'heure qui ne la reçoit pas comme il le voudrait. Donc il se fait malgré tout beaucoup d'ennemis parmi les riches de la capitale parce qu'il veut construire une léproserie à la porte de la ville. Alors c'est un projet qui n'aboutira pas parce qu'il y a vraiment une opposition très forte. Et puis une opposition aussi du côté de ses collègues, de ses confrères ecclésiastiques. Il a été obligé d'avoir une action politique.
Parce qu'il l'appréciait pas forcément, hein. Il n'aimait pas trop ce rôle.
Voilà, presque toutes les sources disent qu'il n'était pas du tout un fin politique. Ouais. Et le fait est que lui-même dit que la politique, c'est pas ça l'important. Lui-même, si son action le mène au martyr, tant pis. Ce qui compte, c'est de défendre la foi au Christ et de la vivre. Voilà.
Alors, il a eu des ennemis, mais aussi, il s'est aussi fait quelques amis. Alors, est-ce qu'on peut citer la plus célèbre d'entre ses amis ?
Une des personnes les plus riches de l'Empire était une jeune diaconesse, puisqu'il y avait des diaconesses à l'époque, à Constantinople. Elle s'appelle Olympias. Et elle s'est tout de suite attachée à Jean Chrysostome. Elle a fondé un monastère à côté de l'église. Elle subvenait à tous les besoins de Jean Chrysostome, des besoins aussi bien pour l'hôtellerie de l'église. Donc Jean Chrysostome a beaucoup fait pour que les pauvres aient un toit, un hôpital, des soins, mais aussi des subsides pour faire construire des églises, des subsides pour des missions, parce que le christianisme était encore en pleine évangélisation aux frontières de l'Empire. Et on a d'elle des lettres qu'elle a échangées plus exactement. On a les lettres de Jean Chrysostome qu'il lui adresse quand lui est en exil, on en parlera tout à l'heure. Ils étaient visiblement très proches et elle est morte juste avant lui, mais ils ont gardé ce contact même avec la séparation exil.
Oui, ce qui veut dire aussi que Jean Chrysostome accordait donc une certaine importance aussi au rôle que les femmes pouvaient avoir dans les communautés, à commencer par son ami Olympias. Alors, est-ce qu'on peut développer un peu cet aspect-là de la prédication de Chrysostome, la place des femmes donc, dans la communauté chrétienne, selon lui ?
Alors, Jean Chrysostome s'en prend beaucoup, je ne sais pas si on peut appeler ça le machisme de ses contemporains, et sachant que lui-même étant un homme, voilà, on va pas dire qu'il était révolutionnaire ni féministe, mais voilà, par exemple, comme il a été élevé par une femme, il a forcément une certaine tendresse et il lui reconnaît bien sûr une autorité. Je cite par exemple la façon dont il commente le proverbe qui dit « Ne rejette pas les prescriptions de ta mère ». Et Jean-Chrysostome commente « Ne l'estime pas moins à cause de son sexe et ne la considère pas comme indigne de toi parce que tu es un homme d'être enseigné par une femme ». C'est d'ailleurs aux deux sexes que Paul adresse ses exhortations dans l'Épître aux Éphésiens. « Car si ta mère est capable de régler la conduite de ton père et de le faire passer de l'erreur à la foi, elle est bien plus encore pour toi, car telle est la nature féminine pour celui qui est né de son sein. » Ainsi pour toute chose, alors là c'est là qu'on voit qu'il n'est pas révolutionnaire. « Elle assume le service de la moitié des affaires, mais pour la foi, ce n'est plus le cas. » Telle que Dieu l'a créée, il est vrai, elle est peu apte au devoir de la cité. Alors voilà, ça c'est figuré aujourd'hui. Elle ne pourra pas, par exemple, ni monter à cheval, ni manier de lance, ni de bouclier, ni lancer la javeline, ni rien de tel. En revanche, elle pourra soutenir la guerre contre le diable avec beaucoup de bravoure. Puisque l'homme et la femme, continuent-ils, ne sont pas différents en leur âme, mais en leur corps, et que le combat contre le diable se fait au moyen de la raison et de la pensée, et non avec le corps, c'est à bon droit que la femme doit avoir confiance. Que la femme ne s'afflige donc pas d'avoir la plus petite part dans les choses sans importance, puisque dans celles qui sont nécessaires, elle est ta égalité.
Voilà, on va retenir surtout cette dernière idée. Alors, l'autre point important que vous avez évoqué aussi en lien avec Olympias, c'est qu'elle donnait de l'argent aussi pour la mission, pour l'évangélisation vers les voisins étrangers. Comment est-ce qu'on peut parler du lien de Chrysostome avec ces étrangers qui se trouvaient aux frontières et qui venaient parfois écouter, depuis les campagnes environnantes, Chrysostome lui-même.
Alors, Jean Chrysostome a beaucoup défendu les étrangers qui se trouvaient à Constantinople, notamment les Goths. Les Goths avaient très mauvaise réputation, c'était des barbares. Et en plus de ça, ceux qui étaient chrétiens étaient le plus souvent ariens. Donc ils niaient la divinité du Fils, donc ils n'étaient pas orthodoxes. Et Jean Chrysostome, malgré tout, consacrait une église aux Goths qui étaient orthodoxes. Et donc il a défendu les Goths contre ses propres ouailles. Et il a donc défendu les Goths lors d'un épisode assez célèbre, en l'an 400. L'un des généraux romains qui avait apporté la victoire à l'empereur, et qui s'appelait Gaïnas, était Goth. Et il était à la tête d'une nombreuse armée de mercenaires Goths. Et il considérait ne pas avoir été bien payé pour les victoires qu'il avait remportées. Et il, avec ses troupes, il campait aux portes de Constantinople. Donc émoi dans la ville, grande peur de ces gens qui étaient à la merci de ces soldats et de ces barbares.
Oui, une fois encore, la ville entière était menacée.
Et Arcadios, qui voilà, semble-t-il était un homme assez faible, demande à Jean Chrysostome d'aller voir Gaïnas, au péril de sa vie en fait, pour lui demander de se soumettre et de se retirer. Jean Chrysostome y va, rencontre Gaïnas, lui demande de se soumettre, et Gaïnas, devant l'aplomb de Jean Chrysostome, semble-t-il, se soumet, se retire, et se fait massacrer ensuite par les sbires de l'empereur. Voilà, la façon dont Jean Chrysostome, par exemple, défend les étrangers, voilà, ça peut avoir des accents encore aujourd'hui d'actualité. « Que personne, dit-il, ne prenne comme une honte pour l'Église le fait que nous ayons fait se lever et parler au milieu de vous des étrangers. Car là est la beauté de l'Église, là son ornement, là, la démonstration de la puissance de la foi. Le soleil est à tous, la terre, la mer et l'air le sont aussi, bien plus encore la parole de l'Évangile. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il vint dans le monde, a appelé des étrangers en premier, car lorsqu'à sa naissance il fut placé dans la crèche, des mages vinrent de Perse et se prosternaient devant lui. Ils avaient fait un long voyage pour le voir et l'adorer, demandant autour d'eux « Où est né le roi des Juifs ?» Quel fait étonnant et extraordinaire. C'est par une voix étrangère que le Fils unique de Dieu est annoncé en premier en Judée, là où il y avait les prophètes, les patriarches, les justes, la loi, l'alliance, le temple, les sacrifices et le culte. Et alors que les Juifs nourris de ces aliments refusent de se laisser instruire par des barbares, eux qui n'avaient jamais rien entendu d'approchant deviennent les professeurs des spécialistes en la matière. Là, pour le coup, c'est assez politiquement correct, dans le sens où c'est la défense d'une minorité. Mais en réalité, ce n'est pas du tout correct vis-à-vis de la mentalité de l'époque.
Oui. Donc et là, Chrysostome se met aussi en porte-à-faux par rapport à l'opinion majoritaire de l'époque. Et donc, on l'a vu à l'instant avec Gaïnas notamment, Jean n'a pas peur d'aller à sa rencontre et de le faire plier. Et Jean va même ensuite affronter le pouvoir impérial lui-même. Il n'a décidément peur de rien.
Un jour, par la Grand-Rue, arriva un certain Jean qui venait de Courpierre. Il disait s'appeler Jean sans peur et répétait à ceux qui voulaient l'entendre et même à ceux qui ne l'écoutaient pas, « C'est moi, Jean sans peur, rien ne me fait peur, je n'ai jamais eu peur, jamais je n'aurai peur, je voudrais bien savoir qui pourra me faire peur. » En voilà un fameux vantard, se dirent les gens du village. Ce n'est pas tout de le crier sur les toits. Encore faut-il nous montrer qu'il n'a peur de rien.
C'était Michel Galabru qui racontait Jean sans peur. Alors, le prochain affrontement de Jean après Gaïnas, ça a été donc un affrontement avec le pouvoir, comme je l'ai dit. Alors, est-ce que Jean a vraiment été implacable, sans peur et sans reproche?
Alors, sans peur, je pense que oui. Il y a vraiment des textes où on voit bien qu'il est conscient de ce qu'il risque. Il s'est attiré, comme je l'ai dit, la colère de ses confrères ecclésiastiques, et notamment celui qu'on appelle le pharaon, à savoir Théophile, évêque de la puissante cité d'Alexandrie. Théophile avait été contraint de consacrer lui-même Jean Chrysostome archevêque de Constantinople, sachant qu'il y a eu un conflit de pouvoir entre les deux grandes villes, Alexandrie qui a beaucoup plus d'ancienneté et d'autorité culturelle, et Constantinople qui est la petite jeune, la nouvelle, qui vient prétendre être plus importante qu'elle. Donc Théophile voulait mettre un de ses hommes sur le siège de Constantinople, et il le prend prétexte d'une convocation qui lui est adressée parce que voilà, il aurait été injuste vis-à-vis de certains moines en Égypte qui se sont réfugiés à Constantinople, ce qu'on appelle les longs frères. Et donc, il est convoqué pour lui-même répondre de ces accusations. Et Théophile arrive à renverser la situation, à mettre l'impératrice Eudoxie dans sa poche. Et finalement, c'est Jean Chrysostome qui est jugé. Il est jugé notamment pour cette mêlée de choses qui ne le concernaient pas, notamment à Éphèse. Ça fait partie des règles ecclésiastiques. On ne peut pas juger les affaires en dehors du territoire canonique. Voilà.
Chaque évêque doit rester dans son évêché et pas voilà, aller
sachant
voir ailleurs.
À cette occasion, Jean Chrysostome avait été appelé. Il avait fait ça pour la bonne cause en plus. Mais voilà, le fait est que, canoniquement, effectivement, il avait fait une erreur. Donc c'est l'erreur principale qu'on lui reproche. Mmh. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que il y a beaucoup de calomnies qu'on utilise. Et le fait est que les sources sur Jean Chrysostome sont difficiles à utiliser parce qu'on voit très bien qu'il y a eu de l'intox des deux côtés, de la part des adversaires de Jean Chrysostome et de la part de ses partisans qu'on appelait les Joannites. Et donc les sources sont biaisées. Et il y en a qui disent qu'il était extrêmement violent, qu'il frappait les gens, les clercs en pleine messe. Peut-être que c'était en partie vrai.
Qu'il leur tirait les oreilles quand ils n'écoutaient pas.
Voilà, bon, et le fait qu'il insulte les gens ou qu'il leur donne des noms d'oiseaux, ça, il le dit lui-même, hein, ça c'est une habitude qu'il avait.
C'était un colérique aussi.
C'est
alors.
Un colérique, il l'avoue. Donc voilà, il y a des aspects qui étaient peut-être vrais, tout n'est pas forcément vrai. On lui reproche de prendre des bonbons au miel, il en avait sûrement besoin pour pouvoir parler, parce qu'il avait une santé chancelante. On lui reproche aussi de dire, par exemple, « Je suis fou d'amour, ero mai no mai ». Et la personne qui fait ce grief dit, voilà, il faudrait qu'il explique ce qu'il veut dire par là, je suis fou d'amour. Voilà, apparemment, là, s'il s'agit de l'amour charnel. Hein, et alors,
oui, peut-être que l'accusateur pensait à Olympias en particulier.
On se demandait ce qu'ils faisaient tous les deux, parce que là, on l'accuse aussi d'être seul avec une femme derrière une porte fermée, de prendre des bains tout seul. Voilà, c'est des accusations qui n'ont finalement pas grande importance, et surtout qui avait des chances d'être soit vertueusement fondée, soit complètement fausse. Donc les accusations sont assez étranges, mais elles suffisent à faire condamner Jean Chrysostome une première fois en 403. Mais divers événements, quelques jours après, font qu'il revient triomphalement à Constantinople. Et c'est là peut-être qu'il fait l'une de ses plus grandes erreurs, c'est que, alors, parmi l'intox qui circule, il aurait traité l'impératrice Eudoxie de Jézabel.
Oui, c'est d'ailleurs donc la peinture qui est en couverture de votre livre, donc Trop occupé pour t'occuper de ta vie. On voit donc Jean Chrysostome en train de lancer ses imprécations à Eudoxie. Donc c'est un épisode qui est resté fameux. C'est une des images qu'on retient de Chrysostome aussi.
Voilà, c'est resté célèbre.
Alors, est-ce que c'est vrai?
Alors, on peut pas le dire avec certitude, mais on pense aujourd'hui que c'est faux. C'est-à-dire que Jean Chrysostome s'en est pris d'une certaine certainement aux grandes dames de la cour, et Eudoxie pouvait se sentir visée. Ça, c'est certain. Mais ce qui est vraiment certain, c'est que un jour de 404, il fait savoir aux autorités qu'il n'a pas apprécié le bruit occasionné par les festivités qui ont eu lieu devant l'église Sainte-Sophie, célébrant l'inauguration de la statue d'Eudoxie qui venait d'être érigée. Et donc Jean Chrysostome se plaint de cette prétention d'Eudoxie et du bruit que ça fait pendant la liturgie. Et là, il est clair que Eudoxie, ensuite, a dû écouter d'une oreille plus favorable les demandes répétées des accusateurs de Chrysostome.
Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver?
Il part un peu avant l'été 404 en exil en Turquie. Il part en Turquie actuelle, à Césarée d'abord, puis à Cucuz en Arménie, en Isaurie. Donc voilà, c'est vraiment un coin reculé. On avait l'habitude de faire exiler les indésirables et au besoin de les faire mettre à mort. Et le fait est que le 14 septembre 407, on veut l'éloigner encore plus encore. Et il est gardé par deux soldats qui ont visiblement ordre de le faire mourir en chemin. C'est ce qui se passe. Son ami Palladio, qui qui raconte la fin de sa vie à des accents hagiographiques. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je lis ce qu'il écrit. Étant dans un état critique, Jean Chrysostome demande des vêtements blancs bien dignes de sa vie. Et s'étant dépouillé de ceux qu'il avait sur lui, il s'habille posément, allant jusqu'à changer de chaussures. Les vêtements qui restaient, il les distribua à ceux qui étaient là. Puis après avoir communié au saint mystère du Seigneur, il fait sa dernière prière devant les assistants, concluant par ces mots habituels « Gloire à Dieu pour tout »« Doxa to theoton panton henneken » en grec, qu'il scelle de son dernier amen. Alors, il fut réuni à ses pères. Très très belle mort, hein, qui... alors on ne sait pas si ça s'est vraiment passé comme ça. L'expression « Gloire à Dieu pour tout », on la trouve vraiment dans les écrits de Jean Chrysostome. Donc ça, c'est authentique et je pense que ça résume assez bien sa spiritualité et le fait qu'il a pleinement assumé le risque de devenir un martyr, y compris un martyr de l'Église.
Donc vous venez d'entendre un extrait de la Divine Liturgie de Jean Chrysostome, donc mise en musique par Tchaïkovski. Alors justement, parlons un peu de cette postérité de Jean dans l'histoire. Après son décès, il est finalement retourné, post-mortem, hein, à Constantinople. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter en deux phrases ce retour en grâce, si je puis dire ?
Il y a un premier retour en grâce en 438, après des décennies de tensions très vives, de schisme même entre l'Église d'Occident et l'Église d'Orient. Retour triomphal de Jean Chrysostome, le peuple l'acclame avec des torches allumées, des chants, voilà, c'est magnifique, en présence de l'empereur. Donc réhabilitation complète. Et puis, le deuxième retour à Constantinople, pour ainsi dire, c'est, il y a quelques années, une partie des reliques a été rétrocédée par le pape à Bartholomée Ier, donc patriarche œcuménique de Constantinople actuellement, parce que les croisés avaient emporté les reliques de Jean Chrysostome lors du sac de Constantinople.
Donc il a beaucoup voyagé.
Et voilà, donc c'est un geste qui a été très apprécié en Orient pour un retour de bonnes relations entre l'Orient et l'Occident.
Alors justement, en Orient, il a eu une postérité peut-être encore plus importante qu'en Occident, puisque c'est devenu l'un des saints principaux de l'Église orthodoxe. Est-ce que vous pouvez nous parler en deux mots donc, de cette liturgie de Jean Chrysostome ? Est-ce que ce sont des textes de lui qu'on a pris et dont qu'on a élaboré pour faire une liturgie, ou est-ce que lui-même avait déjà réfléchi à tout ça de son vivant ?
Alors voilà, la liturgie mise sous le nom de Jean Chrysostome a certainement une inspiration chrysostomienne. On ne peut pas dire avec précision que c'est lui qui a écrit chacun des mots contenus dans cette liturgie. Certains mots, certaines expressions se retrouvent effectivement dans son œuvre. Mais ce qui est plus important, c'est qu'à Constantinople, il a donné sa forme à la liturgie. Il était lui-même très attaché à la liturgie, à la dimension cosmique de la liturgie, dimension éthique, comme on l'a vu, mais aussi la dimension invisible avec la participation des anges. Il a eu une importance pour l'apparition de certaines fêtes, comme celle de Noël. C'est très important dans notre vie de tous les jours, encore aujourd'hui en fait. Et donc aujourd'hui, il est connu surtout pour ça, mais je pense que c'est pas à tort.
Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρηνή
Merci à vous Guillaume Badi pour cet entretien passionnant et presque infini autour de cet homme passionné qui était Jean Chrysostome. Je vous rappelle le titre qu'on retient je pense assez facilement tellement il est accrocheur, donc de l'ouvrage que vous venez de faire sortir aux éditions du Cerf, « Trop occupé pour t'occuper de ta vie, le guide au quotidien d'un père de l'église ». Vous ne pourrez pas le manquer dans votre librairie chrétienne préférée avec cette fameuse couverture de Jean Chrysostome en train de lancer ses imprécations à l'impératrice Eudoxie. Merci à Léo et Clément qui se sont occupés patiemment de la technique et de la régie pendant que nous nous occupions, quant à nous, de la vie de Jean Chrysostome. Et à présent, chers auditeurs, je vous renvoie vers vos propres existences et en vous enjoignant à vous en occuper. Et surtout, n'oubliez pas de vivre.
Voir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie.